tous. Les chefs d'État africains ont entériné mercredi l'accord politique qui a sanctionné le dialogue national qu'a facilité le Togolais Edem Kodjo. C'était à l'ouverture du sommet de la CIRGL tenu à Luanda en Angola. Cette position des chefs d'État n'a pas laissé la classe politique congolaise indifférente. Et puis, un immeuble de 5 niveaux en construction s'est effondré mercredi au croisement des avenues Gambela et Dibaya dans la commune de Kasavubu. Plusieurs témoins affirment qu'au moins 7 personnes ont perdu la vie. Le manque de respect des normes de construction serait à la base de ce drame. Voilà les deux thèmes qui réunissent les journalistes ce soir. Et je m'en vais saluer Luc Mikomo Kabonga. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui émet ici à Kinshasa. Vous êtes aussi éditeur du journal Nouveau Regard et président provincial de l'Association catholique mondiale pour la communication Signis. Je dis aussi bonsoir à Jean-Pierre Kaimé. Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir, cher ami. Bonsoir aux auditeurs de Radio
Vous êtes journaliste et responsable de la presse en ligne à RTGA, un média de Kinshasa. Et Josca Kaninda Kole, journaliste, éditeur, responsable du journal Le Millénaire. Bonsoir, vous êtes avec nous?
Oui, ben, je suis avec vous.
Et je m'en vais saluer aussi Héritier Sidiakala qui assure la mise en onde de cette édition. Bienvenue à tous dans ce numéro. Et nous ouvrons cette tribune de presse avec la revue de presse que nous présente Guy Maté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Le sommet de Luanda, l'effondrement de l'immeuble de 5 étages à Kinshasa, ainsi que le rapport des Nations Unies sur les incidents des 19 et 20 septembre dernier ont défrayé la chronique. Aussi, la volonté exprimée par certains pays africains de quitter la CPI a occupé les unes de journaux. Ainsi, 7 sur 7.cd, titre, présidentiel d'avril 2018, le président angolais conseille la patience au rassemblement. Ce site affirme que le président angolais, hôte du sommet international sur la RDC qui s'est ouvert mercredi 26 octobre dernier à Luanda, a sans surprise salué l'accord politique du 18 octobre entre le gouvernement et une frange de l'opposition. Pour Eduardo dos Santos, cet accord est une cause de célébration pour tous, car il prévoit notamment la présidentielle le 29 avril 2018. Pendant ce temps, le président Kabila demeure au pouvoir en dirigeant le pays avec un gouvernement formé par une personnalité de l'opposition, d'après le président angolais. 7 sur 7.cd ajoute qu'à l'endroit du rassemblement, le président dos Santos a dit que l'accord leur est ouvert. Il leur a surtout conseillé de faire preuve de patience, affirme ce site, qui annonce que Félix Tshisekedi et Christophe Lutundula du rassemblement crachent sur le sommet de Luanda. Tempête des Tropiques indique pour sa part que, consacré sur la crise en RDC, le sommet de Luanda n'a pas surpris. Et c'est quotidien qui reprend les propos du président dos Santos selon lesquels un gouvernement de transition en RDC mettra fin au climat de contestation. Ce quotidien du boulevard du 30 juin estime que le sommet de Luanda n'a pas du tout surpris les peuples congolais au regard des décisions prises. Sans pour autant maîtriser l'environnement et les enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo, cette rencontre a soutenu la position de la majorité présidentielle face à la crise actuelle, déclare ce quotidien, qui indique que l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs s'est invité au sommet de Luanda. Lors de son dernier séjour à Kinshasa, Thomas Perriello a soutenu que le respect de la Constitution reste le meilleur chemin pour garantir la stabilité en RDC, rappelle ce quotidien. L'effondrement d'un immeuble à Kinshasa, 7 sur 7.cd précise que c'est un immeuble de 5 niveaux en construction qui s'est effondré mercredi matin à Kinshasa. Il est situé au croisement des avenues d'Ibaya et Gambela dans la commune de Kasavubu, précise ce site qui annonce qu'à la base de cet accident, une colonne mal fixée a cédé. Une partie s'est reversée chez le voisin. Radio Capi.net rapporte que le bilan provisoire fait état de 7 morts et annonce que le représentant de la famille qui a perdu 7 de ses membres dans ces drames demande au gouvernement de prendre effectivement en charge les victimes hospitalisées comme l'a promis le Premier ministre lors de son passage sur les lieux. Ce site annonce qu'une commission est en train d'être mise en place avec les services étatiques impliqués dans ce secteur pour établir les responsabilités. Répression des 19 et 20 septembre dernier, l'ONU charge lourdement l'armée et la police congolaise et apporte le potentiel qui se base sur les derniers rapports des droits de l'homme des Nations Unies selon lesquels la police nationale congolaise et les forces armées qui sont intervenues lors des manifestations des 19 et 20 septembre à Kinshasa ont recouru à un usage excessif de la force pour réprimer les militants de l'opposition. Pour sa part, l'avenir titre, la MP lève les tons, l'attitude des Nations Unies contre contribue à la radicalisation des rassemblements, selon son porte-parole.
Merci à vous, Guy Maté. Et dans l'actualité, vous le savez, l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie ont annoncé leur volonté de quitter la Cour pénale internationale. Ces États reprochent à la CPI de ne poursuivre que les Africains depuis la création de cette juridiction, alors qu'il y a des crimes de guerre commis à travers le monde. Luc, vous avez suivi cette actualité. Comment vous l'avez analysée?
Globalement, notre presse a bien rendu les choses, mais c'est que je déplore. Je ne sens pas dans le chef des fins limiers, comme on dit, ce souci de creuser davantage certains sujets.
Les raisons pour lesquelles, par exemple, ces trois pays quittent la CPI.
Par exemple, j'en fais une lecture à deux temps. Puisqu'il y a une injustice véritablement mondialisée et une injustice couverte par les grands de ce monde, je trouve que ce n'est pas du tout normal que depuis que la CPI existe, il y a près de 90 cas qui concernent l'Afrique et les 10 autres cas concernent le reste du monde. C'est comme si cette institution judiciaire internationale avait été conçue pour être appliquée sur les Africains. Mais de l'autre côté, je pense que les Africains qui se décident de se retirer de la CPI après l'avoir avalisée, ils ne jouent pas franc jeu. Parce que dans ces pays, il y a eu commission, justement, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et que les auteurs de ces crimes devraient répondre devant la justice internationale parce que dans nos pays africains, la justice n'existe pas. Une justice équitable.
Très bien. Jean-Pierre, vous, comment vous avez analysé la décision de ces trois États? Est-ce que vous êtes d'accord avec les analyses que fait Luc à ce sujet?
Je suis à moitié d'accord avec lui, et d'autant plus que je suis de ceux qui pensent qu'il faut désafricaniser la Cour pénale internationale. Cette institution universelle qui a été créée, Luc l'a dit, en 98 et qui est entrée en vigueur en 2002, était censée être l'église au milieu du village et juger des crimes internationaux qu'on estimait que nos justices à nous accusaient des défaillances. Mais là, on trouve qu'il y a un problème de deux poids, deux mesures qui se présentent. Sur les 10 cas actuellement en examen, au niveau de la Cour de la Haye, 9 viennent d'Afrique. Mais on sait que la CPI peut être saisie de trois manières, ou ce sont les États qui la saisissent, ou c'est le Conseil de sécurité, ou elle-même peut s'auto-saisir. Mais je me demande in correcto, s'il est déjà arrivé à Madame Fatou, je regrette que son pays, d'origine la Gambie, menace de quitter la Cour, s'il est déjà arrivé à Madame Fatou de chercher à enquêter sur des sérieuses violations des droits de l'homme, sur des sérieuses violences qui ont été faites, sur des sérieux crimes commis en Syrie, commis au Pakistan, commis en Afghanistan. Je me demande s'il y a des enquêtes en cours par rapport à ce sujet. Donc aujourd'hui, on a l'impression que la Cour pénale internationale devient un instrument à la solde de grandes puissances.
Jean-Pierre, sans vous couper la parole, par exemple, il y a le cas du Burundi. On sait que le président Pierre Nkurunziza est déjà dans son troisième mandat alors que la constitution lui interdirait d'après les opposants. Et en même temps, il fait l'objet des enquêtes de la part de la CPI, des crimes contre l'humanité. Est-ce que ce n'est pas finalement une fuite en avance?
Non, je comprends les raisons pour chacun des pays. Par exemple, pour ce qui est de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il n'y a pas eu des crimes de masse qui ont été commis. Mais l'Afrique du Sud estime que signer le statut de Rome est en contradiction notoire avec ses engagements pris en termes du respect de l'immunité.
Ouais.
Donc vous comprenez,
ouais.
On fait référence à ce qui est arrivé au président soudanais, sous le coup de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mm-hmm. Pour ce qui est du Burundi, je ne veux pas parler ici d'une fuite en avant. Mais vous savez que Pierre Nkurunziza, je ne m'érige pas en défenseur, mais il y a pire que ce qui s'est vu en Afrique.
D'accord.
Il y a pire en Syrie, en Afghanistan. Il y a pire au Pakistan. Si la CPI n'a pas été saisie par tous ces pays, ou s'ils ne sont pas signés, parce qu'à peine 122 pays sur les 193 ont signé, pourquoi elle ne peut pas s'auto-saisir? Parce qu'elle est censée être un appareil judiciaire universel.
Voilà. On y va maintenant à Bounia. Josca, comment vous avez analysé la décision qu'ont pris ces trois États de quitter la Cour pénale internationale?
En tout cas, moi, je ne comprends pas exactement pourquoi ils ont pris cette décision. Tout en partageant certains avis que les deux confrères viennent de mettre là, ces États-là avaient adhéré librement et en connaissance de cause. Ils savaient pourquoi ils avaient adhéré. S'il y a des choses qu'ils avaient reprochées à la CPI, je pense qu'à l'interne, ils pouvaient discuter pour que la CPI change, notamment sa charte, pour qu'on prenne en compte leurs désidérateurs, plutôt que de faire ce que vous avez appelé là une fuite en avant. Parce que moi, je pense que ceux qui ont peur de la Cour pénale internationale, ce n'est pas les peuples, ce n'est pas la population. Ceux qui ont peur de la Cour pénale internationale, ce sont les fauteurs de troubles, ce sont les dirigeants qui influent de la justice, qui prennent la justice en otage et qui ne sauront jamais être jugés par les justices africaines. Un confrère a dit là-bas qu'en Afrique, il n'y a pas de justice équitable et libre. Alors s'il n'y a pas cette cour-là, je ne vois pas nous les petits peuples, nous les grands petits, nous qui n'avons pas les pouvoirs, par où nous allons passer pour pouvoir accuser ou bien trouver réparation au préjudice nous causé. Moi, je pense que les trois États-là, ils ont raison, ils doivent avoir des bonnes raisons, mais je pense qu'ils pouvaient, à l'interne, exiger que la Cour pénale internationale change certaines choses plutôt que de se libérer de cette Cour. Parce que je ne vois pas, après avoir adhéré librement, ce qu'ils peuvent encore reprocher à la CPI. Quand ils adhéraient, ils connaissaient comment la CPI devait fonctionner.
Voilà, vous dites que quand ils adhéraient, ils connaissaient comment la CPI fonctionnait, mais en même temps, c'est ce qu'a relevé Jean-Pierre Kayembe et même Luc Mikomo ici, c'est comme si la Cour pénale n'est fait que s'attaquer aux Africains alors qu'il y a plein de crimes qui sont commis à l'échelon mondial. Comment vous analysez cela?
Moi, je parle plus en termes de population. Il y a plein de crimes qui sont commis à l'échelon mondial. C'est comme chez vous, là, si chez vous, vous battez vos enfants, moi aussi, je dois battre les mains. Je pense pas. Moi, je pense que nous devons chercher comment nous, les gangs petits, nous pouvons trouver réparation des préjudices causés par les dirigeants africains qui influent de la justice. C'est vrai, il y a des crimes qui se passent ailleurs, qui ne sont pas suivis par la CPI. Est-ce que pour autant que si la CPI doit nous aider, nous, à trouver réparation de nos préjudices, que nous devons refuser? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a la part des choses à faire. Si les gens qui sont à la CPI, je suis dans les tours, Lou Bamba est parti à la CPI, qui l'a extradé? C'est le gouvernement congolais, c'est pas la CPI qui est venue prendre Lou Bamba ici. Tous ceux qui sont à la CPI là ont été déférés à la CPI par les mêmes dirigeants là.
Merci.
Ils font la charte de la CPI.
Merci.
Si la CPI ne fait rien dans d'autres pays, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est que les crimes commis par nos dirigeants doivent être punis.
Merci beaucoup. Très très rapidement alors, Luc, vous vouliez dire un mot?
Non, je voudrais justement dire à Jean-Pierre qu'il dit qu'il y a pire en Syrie, pire en Afghanistan. Non, la sacralité de la vie reste telle partout où l'on puisse se trouver. En Asie, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie. On a tué au Burundi, ce sont des vies humaines qui ont été tuées. C'est aussi grave que quand on tue, soit en Asie, soit en Syrie, soit en Afghanistan.
Merci.
Donc, il n'y a pas à dire que là, c'est pire, là, c'est moins pire.
D'accord,
non.
Merci beaucoup. Et l'autre actualité de la semaine, c'est justement les conclusions du dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme publié la semaine dernière. Dans ce document, la police, les FARDC et la garde républicaine ont fait un usage excessif de la force lors des manifestations de l'opposition des 19 et 20 septembre dernier qui ont dégénéré en émeute à Kinshasa. Et selon ce document, au moins 50 personnes ont été tuées, 140 blessées et près de 300 personnes arrêtées illégalement. Jean-Pierre, comment vous avez analysé ce rapport? Très rapidement.
Non, rapidement, moi je suis finalement habitué à lire des rapports aussi alarmants et inquiétants, toujours à charge du gouvernement congolais. Je note dans ce rapport que les Nations Unies ignorent superbement la responsabilité intellectuelle des auteurs de la marche et présentent les forces armées congolaises comme étant des criminels. Et pourtant, c'est que la police a été prise à partie par des manifestants. La police a cherché à rétablir l'ordre public. J'aurais voulu que ce rapport établisse la vérité. Mais là, je crois qu'on est loin de la démonstration de la vérité. C'est un rapport, à mon avis, impartial, qui contient des contre-vérités énormes et qui n'a de place que, je vais dire, dans une corbeille.
Merci beaucoup. Luc, quelle différence vous faites entre le dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et le livre blanc qu'a présenté le gouvernement, toujours en rapport avec les bilans des manifestations du 19 au 20 septembre dernier?
Lorsqu'on est devant une situation chaque parti défend sa cause. Le livre blanc du gouvernement présente les faits selon la perception du gouvernement. Et la Commission des Nations Unies présente l'affaire selon sa perception. Et les deux versions contiennent chacune une partie de la vérité. Il n'y a aucun document d'entre les deux qui peut prétendre contenir toute la vérité et la globalité de la vérité. Mais hélas, c'est ainsi que le monde est fait. Il viendra un moment où l'on devra se rendre à l'évidence. Ça veut dire quoi? Initier une commission d'enquête ou des vérifications qui devra nous rendre la vérité sans parti pris. Mais malheureusement, je crois que cette dernière approche serait un peu plus difficile dans le contexte qui est le nôtre.
Merci. Et tout de suite, nous allons commencer notre premier thème de la soirée qui concerne le sommet des Luanda. Le président Eduardo Dos Santos appelle la classe politique congolaise à ne pas prôner la violence. Plus de détails avec vous, Blaise Makassi.
Le président angolais estime dans son discours que la création d'un gouvernement d'unité permettra de préserver la paix et la stabilité, qui sont des conditions essentielles pour le fonctionnement normal du pays et de ses institutions, et devra entraîner la participation active et consensuelle des nouveaux acteurs politiques en République démocratique du Congo. Pour ceux qui veulent accéder au pouvoir, Eduardo Dos Santos fait remarquer qu'ils peuvent le faire démocratiquement en respectant les lois et la volonté souveraine des électeurs et qu'il vaudra mieux la peine d'attendre quelques mois de plus pour le faire en toute sécurité et tranquillité que de suivre les voies incertaines de la violence où, je cite, « l'on sait toujours comment et pourquoi elles commencent, mais jamais quand elles finiront ». Il note qu'il est important de savoir qu'il est toujours préférable et plus facile de prendre le pouvoir dans un climat de paix et d'ordre que de le faire dans des conditions d'un pays dévasté. Pour lui, l'accord intervenu récemment prouve encore une fois que le dialogue reste le seul moyen valable de régler les contradictions et de surmonter les crises et les conflits afin de garantir la paix des esprits et du point de vue politique et social en conformité avec les lois applicables.
Merci Blaise. Vous nous captez à l'instant. Sachez que Luc Mikomo Kabongatre, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision émettant à Kinshasa, éditeur du journal Nouveau Regard et président provincial de l'Association catholique mondiale pour la communication Signis, Jean-Pierre Kayembe, journaliste et responsable de la presse en ligne à RTGA, un média de Kinshasa, et Josca Kanindankole, journaliste et éditeur responsable du journal Le Millénaire paraissant à Bounia, sont les invités de Berry Franklin Luchaka dans la tribune de presse de ce vendredi 28 octobre 2016. Alors Luc, je vous pose la première question. Comment vous avez accueilli ces déclarations du président Dos Santos?
Dubitatif et un peu interdit, puisque quand un président qui a une grande expérience de gestion de la République dit aux opposants d'attendre un peu. Cette invitation à une attente, je la trouve pas compréhensible.
Mais vous vous attendiez à quoi pratiquement? Vous vous attendiez à ce qu'il puisse tisser des lauriers sur l'opposition?
Et non. Et je n'attendais pas non plus mieux que ce qu'il a dit. Puisque, s'agissant d'un chef d'État au pouvoir, se prononçant sur la situation de son homologue, diplomatiquement, il n'y a que ça ce qu'il pouvait dire.
Donc vous n'êtes pas surpris.
Mais je me dis, est-ce que ce propos arrange-t-il quelque chose? Je crois que du point de vue de sa puissance pour modifier la donne sur le terrain, c'est vraiment, la puissance est nulle. Et donc, les propos de Dos Santos n'ont ni modifié la ligne, ni arranger la situation en interne.
D'accord, je vous redonne la parole. Josca Kanindankole, comment vous, à Bounia, vous avez accueilli la déclaration du président Eduardo Dos Santos?
Ça n'a pas étonné les gens parce que nous savons, par exemple, que les chefs d'État africains sont des aveux de même plus vaches. Et la situation du Congo, s'il y avait une alternative au Congo, ça peut faire tâche d'huile dans la région. Il n'y a aucun chef de l'État qui peut accepter. Comme nous savons que nombreux des chefs d'État africains s'accrochent au pouvoir et veulent y rester jusqu'à leur mort. En plus que c'est l'UAC, l'Union africaine qui avait envoyé Eden Kodjo au Congo, je ne vois pas comment ils pouvaient récuser ce qu'eux-mêmes avaient proposé de faire. C'est vraiment, tout le monde s'attendait que ce soit ainsi et que ce soit soutenu au soutien de ce qui a été fait par Kodjo au Congo.
Donc s'il était question de pouvoir soutenir l'action de l'opposition, vous seriez vraiment surpris?
On serait surpris parce que vous savez comme moi que les États africains, dans leur majorité, à quelques exceptions près, sont dirigés par les gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Ce sont les gens qui tripatouillent leur constitution, taillent les constitutions sur leur mesure, changent les constitutions pour se maintenir au pouvoir jusque. C'est la violence toujours qui fait l'alternative en Afrique. Ce serait vraiment surprenant que ces gens-là habitués qui ont pris le pouvoir par violence, qui restent par violence, puissent appuyer une démarche qui serait contraire. Ce serait vraiment une situation surprenante.
Je vous redonne la parole. Jean-Pierre Kayembe, vous avez entendu Joska Kanyinda qui dit que ce n'était pas une surprise d'entendre les chefs d'État prendre position pour le chef de l'État congolais. Vous avez entendu Luc qui se sent un peu dubitatif par rapport aux propos du président Dos Santos. Comment vous avez réagi à l'annonce ou à la publication de tous ces propos dans la presse?
Écoutez, Béry, je crois qu'à un moment, il va falloir être honnête. Quand l'Union européenne tonne, ses sous-traitants applaudissent dans la ville basse. Mais quand c'est l'Afrique entière qui s'est réunie, qui apporte son soutien à la RDC, l'Afrique, il ne veut pas d'un vin de sang au Congo. On murmure. Et là, c'est pas honnête. Je crois qu'on devrait développer des attitudes honnêtes.
Mais c'est quoi les attitudes honnêtes précisément?
Des attitudes honnêtes ici, c'est à reconnaître l'évidence. L'évidence, c'est que le dialogue qui s'est tenu à la Cité de l'Union africaine a eu le soutien des Nations Unies, a eu le soutien de l'Union africaine, dont le Togolais et Eden Kodjo en est l'émanation. Ce dialogue a le soutien de la SADC, qui s'est déployé à la veille de la signature de l'accord, qui a tenté de faire ce que ses émissaires pouvaient faire. Quoi de plus normal que l'Union africaine entérine? Quoi de plus normal que l'Union africaine prenne acte quand on sait que ce dialogue s'est déroulé dans les conditions réclamé par la communauté internationale, fustigé ici par un groupuscule d'opposants qui n'espère qu'à prendre le pouvoir par la violence. Donc
d'accord.
Je considère le discours de l'Union africaine d'apaisant. Est-ce que ça ne sert à rien après tout de pouvoir mettre le pays à feu et à sang pour pouvoir gouverner un jour? Mais dis donc, sur qui va-t-on gouverner? Sur des cadavres? Sur des entreprises qui auront été détruites?
Voilà, alors Jean-Pierre, est-ce que vous comprenez finalement la déception de l'opposition, notamment le Rassemblement, lorsqu'ils ont suivi cette actualité de Luanda?
Non, le Rassemblement depuis un temps ne cautionne aucun discours qui va dans le sens d'un compromis consensuel. Le Rassemblement veut aujourd'hui où épouse les thèses de la terre brûlée. Le Rassemblement aurait été content et monterait sur ses chevaux si à Luanda, le chef d'État africain avait dit, avait remis en cause le dialogue. Mais je voudrais vous dire une chose. Derrière vous, vous travaillez pour les Nations Unies. Dans l'histoire de l'ONU, on n'a jamais encouragé la violence. Dans l'histoire de l'ONU, on n'a jamais encouragé la guerre. Mais par contre, c'est la guerre qui profile au Congo. Quoi de plus normal qu'il y ait des discours apaisants,
d'accord,
des discours qui appellent à la paix, des discours qui appellent au calme,
très bien,
des discours qui appellent à la tranquillité, j'atterris par là, à la bonne cause. Et je comprends, aujourd'hui, les rassemblements lâchés par certains de ses soutiens doit revenir à la raison et comprendre qu'ils sont sur un plan foireux.
D'accord. Luc voulait réagir depuis longtemps. À vous la parole, Luc.
Non, je pense que les propos de Jean-Pierre sont excessifs. Dans un contexte où on est en train de chercher la calmie, on est en train de chercher, je me dis, une certaine osmose entre le pouvoir et l'opposition, ce discours-là n'est pas bon. Voilà clairement ce que j'aurais pu attendre de Dos Santos, vu son rôle de sage. Puisque le dialogue s'est tenu à la cité de l'OIA et qu'il n'a pas réussi à réaliser l'inclusivité, Dos Santos pouvait peut-être lancer, ne fût-ce que de manière secrète, un appel à tous ceux qui n'ont pas participé à ce dialogue-là, pour prendre langue avec eux, pour éviter justement, comme dit Jean-Pierre, le bain de sang. Mais lorsqu'il dit que vous attendez, vraiment, il est mal sorti. C'était une sortie médiatique ratée. Et ce que Dos Santos fait inspirer aux acteurs politiques ce qu'écrivait Bertolt Brecht dans Saint-Jean des Abattoirs, que en haut et en bas, ce sont deux langages, deux poids, deux mesures. Les hommes ont même figure et ne se reconnaissent plus. Mais ceux qui sont en bas sont maintenus en bas pour que restent en haut ceux qui y sont déjà. Vous voyez que cette logique ne peut pas marcher. Dos Santos devait, en bon père de famille, en bon sage africain, tenter d'une manière ou d'une autre d'approcher ceux des opposants qui n'ont pas pris part au dialogue, de prendre langue avec eux et de leur faire comprendre, selon lui, la pertinence de l'accord et de leur dire que si ce n'est pas ce schéma, si vous en avez un, proposez-le nous. Et que...
Alors, sans vous couper la parole, je voulais dire, la majorité estime que le rassemblement devrait plutôt entendre la voix de la conscience africaine donnée à Luanda. C'est un peu dans le même sens que dit Jean-Pierre. Est-ce que ce n'est pas finalement ce qu'il faut peut-être attendre?
Non, je crois que logiquement, si le rassemblement avait accepté tout ce que avait dit Luanda, il serait en contradiction avec lui-même. Parce que le rassemblement a rejeté le schéma issu du dialogue. Donc,
même l'accord, pratiquement.
Oui, l'accord. Vous n'allez pas lui demander, parce que ça vient de Luanda, de l'accepter.
Des chefs d'État africains.
Moi, je pense que véritablement, la classe politique et même l'intervention de la communauté internationale doit consister à pouvoir convaincre les uns et les autres à se retrouver, même dans un cadre informel, pour trouver une formule afin de sauver ce pays. Mais si telle tendance appuie tel point de vue et rejette tel autre, ça sera de l'impartialité et aucune des parties ne pourra accepter que, quelle que soit la hauteur, le volume de l'institution qui intervienne, puisse la condamner.
D'accord. Alors, Josca, dans l'opposition qui n'a pas participé au dialogue, on estime que tous ces chefs d'État africains sont des gens qui sont assis soit sur la violation de leur propre constitution ou qui sont là par une certaine imposition au détriment du principe démocratique. Comment comprenez-vous cette affirmation des opposants au niveau du rassemblement?
Mon frère, je dois vous dire franchement que j'ai pitié de mon pays et j'ai honte pour la classe politique congolaise qui se réjouit des déclarations qui viennent d'ailleurs, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition. Qu'est-ce que cette déclaration de Luanda va changer sur la donne en RDC? Je ne crois pas. Les avis restent figés, chacun campe dans son camp, malgré les déclarations de Luanda. Maintenant qu'on a déclaré comme ça, c'est de l'huile qu'on met sur le feu. Parce que je sais que nous allons revivre ce que nous avons vécu en 1990, où il y aura une opposition qui a la fronde dans la rue, et un pouvoir qui passera tout son temps à réprimer et à essayer de sécuriser. Et il n'y aura rien qui sera fait dans les promesses du développement. Moi, je pense, comme a dit le confrère tout à l'heure là, que la sagesse africaine devait exiger qu'on fasse voir qu'il faut que l'opposition qui n'était pas au dialogue participe aux affaires, rejoignent ceux qui sont déjà au dialogue. Tant que cette opposition sera hors des circuits, rien ne va marcher. Nous aurons un gouvernement de transition. Nous en avons eu 7 ou 8 à l'époque de Mobutu qui n'ont jamais organisé les élections. Ce gouvernement de transition ne fera rien. Moi, je pense que l'accord de Luanda ne change pas les positions sur terrain. Les oppositions, les opposants sont campés dans leur camp. Les partisans du pouvoir sont campés dans leur camp. Personne ne veut venir vers l'autre pour trouver un compromis. C'est ce qui met notre pays en péril. Moi, je pense que nos politiciens n'ont pas intérêt à faire la politique pour eux-mêmes, ils doivent faire la politique pour nous, la population.
D'accord.
La déclaration de Luanda ne change rien sur la donne politique. Je disais à un ami tout à l'heure, là nous étions à la Radio Merveille, que hier, la fronde sociale, ou bien les revendications politiques, c'était Kinshasa. Aujourd'hui, c'est Beni, c'est Goma, c'est Haru, c'est Lubumbashi, c'est Kalemi. Partout, les gens marchaient, la lucha partie. Il y a une sorte de changement quantitatif, ou de changement quantitatif, prépare les changements qualitatifs et il y aura un bon dialectique au Congo. Il ne faut pas que ceux qui sont au pouvoir attendent ces bons à venir et seront surpris par ces bons et nous allons revivre encore le chaos dans ce pays. Le pays a besoin de la paix, et la violence peut être aussi verbale, la violence peut être de cette manière de ne pas reconnaître aussi le point de vue de l'autre, c'est pas bon. Moi je pense que malgré l'accord de Luanda, malgré les déclarations, les policiers congolais doivent se mettre sur une même table et parler le même langage.
Vous avez vraiment insisté, même Luc a aussi insisté sur ça, l'accord de Luanda ne va rien changer en RDC, mais pour conclure sur ce premier thème, pensez-vous comme au rassemblement que seul le peuple congolais peut trancher ou résoudre le problème qui se pose actuellement, en un mot rapide?
Mais le peuple congolais, il doit avoir des leaders. Ce sont eux les leaders politiques qui doivent forger l'opinion publique. Il y a une sorte de cassure, si vous ne le savez pas, il y a un fossé, une cassure même entre les dirigeants et les populations, en Afrique généralement, même au Congo. Ce que les dirigeants pensent et la classe politique, ce n'est pas ce que le petit peuple pense. Je crois qu'il faut des leaders qui prennent en compte les avis de la base et qui le mettent en exécution et qui trouvent des décisions.
Merci.
Je crois que c'est ce qu'il faut faire au Congo.
Merci beaucoup. Jean-Pierre, vous avez entendu les avis de Josca et Luc. J'imagine que vous n'êtes pas du tout d'accord avec eux, mais très rapidement pour conclure, est-ce que vous pensez que seul le peuple congolais peut résoudre le problème qui se pose ici en RDC?
Oui, moi je compte sur la maturité politique. En même temps, je dénonce le comportement instrumentalisé de notre classe politique. Je voudrais ici dire qu'il est possible que les Congolais transcendent leurs divergences, qu'ils se parlent par-dessus les frontières. Mais ce qui ne va pas, c'est quand on obéit à un dictat, on obéit à des instructions, à des injonctions données par certains néocolonialistes qui ne veulent pas voir ce pays en paix, qui veulent toujours profiter d'une instabilité politique pour piller nos ressources naturelles. Le dialogue étant fini, je crois que de tous les avis que j'entends ici et là, il est bien clair qu'il n'y en aura pas une deuxième, mais pour sauver le meuble, je considère le rassemblement comme une frange importante de l'opposition. En même temps, je ne dénie pas la qualité à ces opposants qui ont participé aux travaux de l'Union africaine, la qualité de représenter l'opposition politique. On sait que pendant ces assises, la majorité a tout fait. L'opposition n'a bougé d'un pouce.
Mm-hmm.
Donc vous comprenez qu'il y a une sorte de mauvaise foi, de mauvaise volonté, une stratégie de pourrissement qui est savamment montée et en train d'être mise en exécution dans les rangs du rassemblement.
Merci.
Je propose, le dialogue étant fini,
rapidement,
des contacts directs entre la majorité et puis le rassemblement, et voir si le rassemblement peut accepter de manger ce plat qu'il n'a pas préparé. Mais si vous prenez l'accord qui a été signé et les accords secrets signés entre la majorité et l'UDP, c'est la même chose. Dans les différences, on ne comprend toujours pas ces rétropédalages. Donc, je crois qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit toujours, accepter que l'avenir de tout un peuple soit suspendu aux lèvres d'un groupe de gens.
D'accord,
des gens
merci beaucoup.
Qui nous comptent et sous leurs propres intérêts, alors qu'ici, il est question des intérêts de près de 70 millions de Congolais.
Merci beaucoup. Alors, Luc, en guise de conclusion pour ce premier thème, très rapidement, pensez-vous que seul le peuple congolais peut résoudre et va résoudre seul le problème qui le mine actuellement?
La République démocratique du Congo ne peut plus prétendre vivre en autarcie à l'heure qu'il est. Mais il y a véritablement possibilité, s'il y avait volonté politique, que les Congolais eux-mêmes se mettent autour d'une table et qu'ils parlent de leur pays. Tout à l'heure, vous voyez, Jean-Pierre est en train de négliger un pan important dans cette polémique. Il dit qu'il ne sait pas si l'opposition va manger les mets qu'elle n'a pas préparés. En politique, ça ne se fait pas, Jean-Pierre. Mais moi, quand j'ai observé l'approche géostratégique, géopolitique et même géolinguistique du dialogue, j'ai eu l'impression qu'on veut faire de la République démocratique du Congo un paradis des pirates pour instaurer l'ordre de la stateless global governance du gouvernement planétaire sans État.
Merci.
Où quelques règles indispensables au bon fonctionnement de l'impérialisme, du capitalisme, seraient fixées par les instances des issus de ces institutions-là.
Donc, en un mot, vous n'êtes pas très loin de la proposition qu'a faite Jean-Pierre, que les deux franges, l'opposition et la majorité,
se rencontrent. Non, j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait que les acteurs politiques de la majorité, de l'opposition, de la société civile, même l'apport de la communauté internationale, devrait provenir du contact direct entre les acteurs qui sont au premier plan dans cette crise.
Merci
donc,
beaucoup.
Il n'y a pas une autre voie.
Merci beaucoup. Nous entrons dans notre deuxième et dernier thème de la soirée qui concerne l'effondrement d'un immeuble ici à Kinshasa. C'est un immeuble de 5 niveaux en construction qui s'est effondré mercredi matin au croisement des avenues Gambela et Dibaya dans la commune de Kasavubu. Des témoins rapportent qu'au moins 7 personnes sont mortes et d'autres pourraient être enfouies dans les décombres du fait que cet immeuble s'est écroulé sur la maison de la parcelle voisine. À la base de ce drame, le non des normes en matière de construction, ce que rejette l'ingénieur constructeur joint par Radio Capi. C'est un récit de Innocent Olenga.
Des témoins affirment que cet immeuble s'est effondré vers 6h du matin. À voir comment il est rasé, on croirait qu'un séisme est passé par là. Les habitants du quartier déplorent le manque de respect des normes de construction.
Si tu regardes demain le bar de fer de 6, de 7, alors qu'il fallait des barres de fer au moins de 25 pour élever la maison de 5 niveaux. La qualité de brique, c'est regrettable. La maison de 5 niveaux avec une brique qui est légère comme ça, comme un biscuit.
Mais l'ingénieur King Sekingu, constructeur de cet immeuble, rejette ses allégations et attribue ses dégâts à une colonne, selon lui, qui a pété.
On a très bien dimensionné notre fondation, on l'a fait avec deux barres de 14. On a monté les dernières barres de fer qui est au-dessus, ce sont des barres de 12. Ce ne sont pas des barres de 6, des barres de 8 comme les profanes disent. La colonne a pété. C'est l'une des colonnes principales qui a cédé. Nous ne pouvons pas savoir que non, une seule colonne qu'on a déjà arrangée peut endommager tout un édifice.
Quant aux morts, beaucoup de témoignages parlent d'au moins 7 soutirés déjà des décombres. Mais ces nombres, soutient-on, pourraient être revus à la hausse.
Merci Innocent Olenga. Très rapidement, Luc, comment vous avez analysé ce drame?
J'ai pris le temps de faire un petit tour du côté de l'immeuble qui s'est effondré. Je ne suis pas spécialiste en construction, je suis ni architecte ni constructeur, mais j'ai constaté tout de suite qu'il y avait beaucoup de menus détails qui ont été négligés. Regardez, les constructeurs disent que nous nous avons bien dimensionné de briques, tout ça, mais une colonne a pété. Mais puisque une colonne a pété, il y a eu de la négligence. Il aurait pu se rendre compte bien avant que, vu ceci, cela, je ne peux pas prendre pour cette colonne dont il parle, qui a pété des barres de fer de 12, ça ne tiendrait plus, parce que visiblement, le poids de l'édifice serait plus grand et que cette colonne ne serait pas à mesure de le supporter.
D'accord.
Il s'est rendu, d'une manière directe ou indirecte, coupable de l'accident qui est venu, qui a survenu et qui a causé mordant.
D'accord. Alors, Josca, vous avez suivi aussi cette actualité. Beaucoup d'analystes dans le domaine de construction affirment que l'État n'a pas une bonne politique en matière de logement. Qu'en pensez-vous?
Non seulement l'État n'a pas une politique en matière de logement, mais en plus l'administration de l'État par rapport à la gestion des chantiers, c'est tout un problème. Nous avons le service de l'urbanisme, mais j'étais choqué d'apprendre que le service de l'urbanisme avait demandé qu'on stoppe ses travaux depuis un mois, et le ministère a continué à travailler. C'est déplorable dans un État qui se veut organisé. Vous interdisez quelqu'un qui est en désordre et vous le laissez faire jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme et qu'il y ait accident. Je crois qu'il faut voir du côté de l'administration du service de l'urbanisme pour qu'on sache permettre la construction qu'il y ait des choses qui sont dans les normes. Même chez nous ici à Bounia, il y a beaucoup de chantiers qui poussent depuis que la guerre est partie. Il y a des gens qui construisent sans même avoir été au service de l'urbanisme. Il suffit qu'un agent se pointe dans les chantiers, vous donnez quelques billets de banque et vous construisez votre chantier. Je pense que la grande faute, il faut la donner à l'administration du chantier, là, de pas aussi des services de l'environnement et de l'urbanisme. Aussi, il y a la faute par rapport, c'est un peu profond, par rapport à la formation. Les gens terminent les études, ils sont ingénieurs en construction, est-ce qu'ils sont, ils ont vraiment la matière qu'il faut, bien ils ont eu des diplômes sans vraiment des valeurs. Moi, je crois qu'il faut voir les deux côtés. qu'on ait des ingénieurs qui ont le travail en main et qui aient l'administration qui suit réellement les chantiers et suit les normes. Je pense que quand on doit construire sur un terrain, les services de l'urbanisme doivent voir les terrains, ce qui est le terrain propice pour le bâtiment qui doit être construit.
Merci.
Est-ce que les matériaux qui sont là sont conformes? Ça peut aider. S'il n'y a pas cela, je crois qu'on doit continuer à compter des morts.
Merci beaucoup. Jean-Pierre Kayembe, le chef de famille des victimes de l'effondrement exige que le coupable soit sévèrement sanctionné. Pensez-vous qu'il sera entendu?
Oui, écoutez, je voudrais commencer par exprimer toute ma compassion à l'endroit de familles éplorées et dire ici qu'il y a eu en même temps de la négligence et un manque de suivi. Parce que comment expliquer qu'un bâtiment, au départ, envisagé pour être construit à 3 étages, il en arrive à 5. Donc, et que les responsables des services de l'habitat aient donné l'instruction à ce qu'on arrête la construction et que l'architecte et les autres aient fait fi de cette injonction.
D'accord.
Donc, je crois que s'il faut parler d'abord en termes de responsabilité, elles sont partagées côté étatique. Je crois qu'il y a eu manque de suivi. Et on sait, avec le boom immobilier que Kinshasa est en train de connaître, des constructions qui poussent comme du champignon et qui ne respectent pas, qui n'obéissent pas aux normes en vigueur. J'en appelle en tout cas à l'intervention du ministère de l'Habitat et d'autres services, parce qu'aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'on construit même à des sites où on ne peut pas construire. On construit, on ne prévoit pas de c'est un peu du tout, il y a à manger, à boire et à vomir.
D'accord.
Alors, quant à l'indemnisation des victimes, j'ai suivi le Premier ministre qui a promis de prendre en charge les obsèques et les restes, et puis que des responsabilités soient établies, attendant que l'enquête qui a été ouverte aboutisse, nous donne des résultats. Et donc, c'est sur base de ces résultats que nous saurons. Mais déjà, nous savons que l'architecte qui était quasi introuvable depuis un temps, beaucoup de versions autour de l'effondrement de cet immeuble, je ne voudrais pas tirer des conclusions hâtives, dire qu'il n'y aura pas de sanctions pour le coupable, même si les gens spéculent dans tous les sens que l'immeuble appartiendrait au gouverneur de la ville. J'ai suivi d'autres sur Facebook que l'immeuble appartiendrait au Premier ministre. D'autres disent qu'il appartiendrait à un compatriote qui vivra à l'étranger. Beaucoup de versions.
D'accord. Voilà. Alors, voilà.
Aboutisse.
On arrive déjà pratiquement. Oui. Jean-Pierre, on arrive déjà à la fin de notre émission. Pour conclure, que peut-on faire, que faudrait-il faire pour ne plus vivre ce genre de drame? Très, très, très rapidement, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes pour finir cette émission.
Il faut rappeler ici que ce drame est le 3e en l'espace de 3 ans. L'année passée, c'était l'effondrement au Bon Marché. Il y a 2 ans, c'était au quartier Bassoukou. C'est un drame de trop. Ce qu'il faut faire, il faudrait que le ministère d'Habitat prenne cette question au sérieux.
D'accord.
On ne peut pas construire si on n'a pas un permis de conduire. Et le permis de conduire seul ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait un suivi des inspecteurs de ce ministère pour qu'ils se rendent compte si le constructeur respecte le contrat prévu dans l'autorisation des bâtiments.
Et ce sera aussi votre conclusion. Jusqu'à, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire, au-delà de ce qu'a dit Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne plus vivre ce genre de drame?
Il faut retirer les diplômes à tous ces constructeurs-là qui font écrouler les maisons. Il faut retirer les diplômes et les arrêter. Les punir, c'est vraiment qu'ils soient exemplaires pour donner la matière aux autres. Et aussi, punir les responsables des chantiers, les propriétaires des parcelles qui vont à l'encontre des mesures prises par les services de l'humanisme et Habitat.
Merci beaucoup. C'est ça, c'est votre conclusion. En guise de conclusion, Luc.
Moi, je dis que, à la suite du professeur Jean Cambaye Boitia, que l'avenir n'est pas un destin aveugle. Nous devons construire notre avenir, nous devons l'orienter, nous devons être les architectes de notre propre avenir. Et pour terminer, je dis que chacun de nous doit prendre ceci à cœur, comme disait Bertolt Brecht, que je vous dis, souciez-vous en quittant ce monde, non d'avoir été bon, cela ne suffit pas, mais de quitter un monde bon.
Merci beaucoup, ce sera aussi votre conclusion. Et c'est la fin de la tribune de presse de ce vendredi 28 octobre 2016. Héritier Sidiakal a été à la prise de son, Guy Mathia a coordonné cette édition supervisée par Julien Nyamouini. Berry Franklin-Pouchaka vous l'a présenté, vous dit merci de nous avoir suivis. Remarques et suggestions, écrivez-nous à dec@radiocapi.net et surtout, retrouvez cette émission sur le site www.radiocapi.net. Bon week-end à tous.